VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au moins 18 morts dans des affrontements tribaux dans la région du Darfour Ouest au Soudan. Au Bénin, un juge dénonce des pressions du pouvoir et s'enfuit du pays. Émoi au Tchad après les révélations de viols par des soldats tchadiens basés au Niger. Reprise du procès pour corruption du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Bénin, un juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a quitté ses fonctions et fuit le pays. Il dénonce des pressions du pouvoir à quelques jours de l'élection présidentielle. Mohamedou Oumfa.
Le juge en question s'appelle Essowé Batamoussi. Dans une interview diffusée par Radio France Internationale, il justifie sa décision par les intrusions du pouvoir exécutif dans son travail, ce qui porte un coup à son indépendance. Toutes les décisions que nous avons été amenés à prendre l'ont été sur pression, y compris celle qui a vu le placement de Dame Rekia Madougou en détention, explique le juge en charge du dossier de cette opposante, incarcérée début mars et accusée d'avoir planifié des exécutions en série de personnalités politiques. Dans ce dossier, nous avons été sollicités par la chancellerie car le dossier ne comportait aucun élément qui pouvait nous décider à la mettre en détention, poursuit le juge. Il ajoute qu'il souhaite aider ses collègues qui sont sous pression et amener le peuple à savoir qu'ils n'agissent pas de leur plein gré. La chancellerie et les autorités béninoises ne se sont pas encore prononcées sur le sujet. Il est encore trop tôt pour parler de la démission du juge. Aucun document n'a été déposé dans ce sens, a indiqué de son côté une source au sein de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.
Au Mali, un lieutenant du chef djihadiste Iyad Agali et plus de 40 assaillants ont été tués vendredi par la riposte des casques bleus à l'attaque contre leur camp qui a coûté la vie à 4 d'entre eux dans le nord, a annoncé ce lundi le représentant de l'ONU. Il s'agit d'une riposte d'une rare vigueur de la part de la MINUSMA, régulièrement attaquée par les djihadistes et souvent critiquée pour sa faiblesse militaire. 4 casques bleus tchadiens ont été tués dans l'attaque de leur camp accueillant un contingent de soldats de leur pays vendredi à Aguelok, à environ 200 km de l'Algérie, selon l'ONU. Au Nigeria, plus de 1800 détenus se sont échappés aujourd'hui d'une prison de l'État d'Imo dans le sud-est du pays après une attaque perpétrée par des hommes armés, ont déclaré les services pénitentiaires nigériens. Toujours au Nigeria, les autorités ont lancé un avertissement. Toute personne qui tenterait de négocier avec les responsables de l'enlèvement de 39 étudiants kidnappés il y a près d'un mois dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays, sera poursuivie. Samuel Arouane, le ministre local de l'Intérieur pour l'état de Kaduna, a également démenti les rumeurs circulant dans les médias locaux qui affirmaient que le gouvernement avait nommé des représentants pour s'entretenir avec ce que les autorités appellent les bandits. Les violences se poursuivent ce lundi au Soudan, où au moins 40 personnes ont été tuées, 54 autres blessées dans des affrontements tribaux à El Geneina, capitale du Darfour Ouest. C'est le dernier bilan fourni par le comité central des médecins soudanais. Le point avec Abdourahman Dia.
Un témoin a indiqué que les affrontements qui ont débuté samedi étaient toujours en cours lundi et se sont étendus à la banlieue ouest d'El Geneina. Le comité des médecins, un organisme fondé en 2016 pour représenter la communauté médicale, a ajouté qu'une ambulance transportant des blessés a également été attaquée. Les hôpitaux continuent de recevoir des victimes, a-t-il ajouté. D'autres affrontements tribaux avaient eu lieu en janvier au Darfour, faisant plus de 200 morts, un peu plus de 2 semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine. Ces affrontements opposent généralement les tribus arabes nomades aux cultivateurs locaux darfouris. Le conflit au Darfour avait éclaté en 2003 entre des forces du régime de l'ex-président Omar el-Béchir, destitué en avril 2019 sous la pression de la rue, et des membres de minorités ethniques s'estimant marginalisés. Les violences ont fait quelque 300 000 morts et plus de 2 500 000 déplacés, essentiellement durant les premières années du conflit, selon les Nations Unies.
Au Mozambique, l'armée dit avoir tué un nombre important de combattants islamistes lors des combats visant à reprendre la ville de Palma dans le nord-est. Nous faisons le point avec Yacouba Ouédraogo.
Ce n'est pas encore terminé, mais un nombre important de terroristes ont été abattus, a déclaré Shongo Vidigal, commandant des opérations à Palma, tombé fin mars aux mains de groupes djihadistes. Il a assuré que la zone est désormais sûre, sans toutefois dire qu'elle est repassée sous le contrôle total de l'armée. Auparavant, le gouverneur de la province de Cabo Delgado, Validji Tuilibo, avait assuré que Palma est à 100% sous le contrôle des autorités mozambicaines. De son côté, Lionel Dick, patron d'une société militaire privée ayant renforcé les troupes mozambicaines, a estimé improbable que l'armée ait repris Palma. Le 24 mars, des groupes armés liés au groupe État islamique ont attaqué Palma à quelques kilomètres d'un méga projet gazier de plusieurs milliards d'euros piloté par le groupe français Total. Les images ont montré des corps gisant dans les rues, des maisons en ruines et des véhicules en cendres. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique a officiellement tué des dizaines de civils, policiers et militaires, mais le nombre réel de victimes n'est pas encore connu.
Un tribunal de l'ONU a refusé la libération anticipée du colonel Théoneste Bakozora, l'un des plus hauts responsables rwandais condamné par la justice internationale pour sa responsabilité dans le génocide des Tutsis en 1994. Âgé aujourd'hui de 79 ans, M. Bakozora était en 1994 directeur de cabinet au ministère de la Défense et l'accusation l'a présenté lors de son procès comme le cerveau du génocide qui a coûté la vie à 800 000 personnes appartenant principalement à la minorité Tutsi. La République arabe sahraoui démocratique a indiqué aujourd'hui vouloir solliciter un siège à l'ONU où le Conseil de sécurité doit de nouveau débattre ce mois du dossier du Sahara occidental qui oppose de longue date un mouvement indépendantiste au Maroc. À ce jour, la RASD ne dispose d'aucun statut à l'ONU. La question du Sahara occidental, considéré comme un territoire non autonome par l'ONU, en l'absence d'un règlement définitif, oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario depuis le départ du colonisateur espagnol dans les années 70. Au Ghana, des bancs de poissons et une soixantaine de dauphins se sont échoués pendant le week-end sur trois plages des côtes du pays sans que les causes n'aient pu être déterminées, ont fait savoir aujourd'hui des autorités et des sources locales.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Reprise du procès pour corruption de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, est notamment accusé d'abus de pouvoir. Rosine Mounezero.
Selon la procureure principale Yad Ben-Ari, M. Netanyahou a usé de façon illégitime du grand pouvoir gouvernemental qui lui est conféré, entre autres pour demander et obtenir des avantages injustifiés de propriétaires de médias importants en Israël. Tout cela pour faire avancer ses affaires personnelles, notamment quand il voulait se faire réélire, a-t-elle affirmé. Selon nos témoins, il était notamment demandé aux citoyens de publier des articles contre les principaux rivaux de M. Netanyahou, dont Naftali Bennett. Menteur, envers sur la démocratie, pouvait-on lire aux abords du tribunal à Jérusalem sur des pancartes de manifestants qui réclament depuis des mois sa démission. M. Netanyahou est accusé de corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, des charges qu'il nie fermement. Dans l'immédiat, le procès de M. Netanyahou ne menace pas ses ambitions d'être reconduit dans ses fonctions. Il n'aurait à démissionner qu'en cas de condamnation définitive. Cependant, l'épuisement de tous les recours pourrait prendre des années.
Les États-Unis vont pousser leurs partenaires du G20 à adopter un taux d'imposition minimal pour les entreprises, a déclaré lundi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, une semaine après la présentation par Joe Biden d'un plan d'investissement financé par une hausse des impôts sur les sociétés. Le Fonds monétaire international a annoncé l'extension d'une aide d'urgence en faveur de 28 pays parmi les plus pauvres du monde pour leur permettre d'alléger leurs dettes et de mieux faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19. Toujours sur le front de la lutte contre le coronavirus, encouragé par l'amélioration de la situation sanitaire au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson envisage d'entrouvrir les frontières. Au Portugal, musées, collèges et terrasses de café ont rouvert plus de 2 mois après leur fermeture. La Grèce a autorisé lundi la plupart des magasins à rouvrir, malgré des chiffres toujours inquiétants. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Dans son discours ce week-end, le président sénégalais Macky Sall a annoncé le lancement en mai d'un programme de 80 milliards de francs CFA pour le recrutement de 65 000 jeunes et la création de 5 000 emplois pour des enseignants. 450 milliards de francs CFA seront alloués au programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Ce projet sera discuté lors du Conseil présidentiel le 22 avril. Au Cameroun, le Trésor public a mobilisé 127 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale au premier trimestre 2021. La dernière émission des obligations du Trésor assimilable a levé 41 milliards d'une maturité de 5 ans avec un taux de rémunération de 5,5%. Les fonds mobilisés sont destinés à des projets de développement, notamment dans les secteurs de l'eau, l'énergie et l'agriculture.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir à tous. Reprise des matchs interclubs de la CAF. En Ligue des Champions, la 5e journée a été cauchemardesque pour les clubs de la RDC. Le tout-puissant Mazembe et l'AS Vita Club sont éliminés. Les Corbeaux de Lubumbashi ont été battus 2-0 en Algérie par le CR Belouizdad et les Dauphins Noirs de Kinshasa ont coulé 4-1. En Tanzanie, face à Simba qualifié, le tenant du titre Al Ahly du Caire a arraché son ticket grâce au nul 2-partout obtenu au Soudan face à Al Merrekh. Dans le groupe C, Oroya et Kaizer Chiefs joueront une finale dans une semaine. Les Sud-Africains ont infligé une première défaite au Wydad de Casablanca, leader et déjà qualifié. De son côté, Oroya de Conakry est bien parti grâce à sa victoire 1-0 en Angola face au Petro Atlético. Oroya et Kaizer Chiefs sont à égalité 8 points chacun. Les Sénégalais de Tenguef, 3 défaites et 1 nul jusqu'ici, ont remporté leur première victoire face à l'Espérance de Tunis 2-1. En Coupe CAF, c'était la 3e journée. Le Raja de Casablanca a frappé un grand coup en s'imposant 2-0 à domicile face aux Pyramides FC. Les Marocains sont seuls en tête du groupe devant les Égyptiens qui ont 3 points d'avance sur les Zambiens de Nkana. Vainqueur en Tanzanie sur le terrain de Namungo, 1-0. Dans le groupe C, le club sportif sfaxien fait toujours la course en tête malgré son nul 0-0 devant l'Étoile du Sahel. Les Sénégalais de Jaraf se sont relancés en disposant 2-0 des Burkinabés de Salitas. Belle opération aussi pour Coton Sport de Garoua, vainqueur 1-0 en Zambie sur le terrain de Napsa Stars. Reprise également du championnat au Togo après un premier report. Et c'est à Sokodé, à 340 km au nord de Lomé, que le coup d'envoi de cette saison 2020-2021 a été donné. Un match entre le champion en titre Asco de Kara et Sara Sport de Bafilo. On retrouve notre correspondante au Togo, Kayi Lawson.
La reprise du championnat, bien que pénible pour les muscles, est accueillie avec le sourire, comme le témoigne Germain Kouadjo, joueur d'Asco de Kara.
C'est une joie pour nous les joueurs, parce que ça fait une longue période que nous n'avons pas compétit.
Pour ce premier match de la saison 2020-2021, Asco de Kara a battu Sara Sport de Bafilo sur un score de 2-0, dont un but sur pénalty à la 90e minute. Le caractère jeune de l'équipe de Bafilo n'a pas joué en sa faveur, a estimé l'entraîneur de Sara Sport, Iso Takou.
Notre adversaire a été prenable, mais j'ai une équipe très jeune qui a essayé de contenir les 45 premières minutes. À la deuxième mi-temps, il y a eu des petits relâchements de mes pions et ça m'a valu 2 buts.
Alors que la pandémie de Covid-19 sévit, Les autorités sportives du Togo ont pris des mesures supplémentaires afin de permettre au championnat d'aller jusqu'à son terme. Kay Lawson, de retour de Sokodé pour VOA Afrique.
Notre correspondante au Togo, Kay Lawson.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Tchad, les autorités administratives, militaires, mais aussi des ONG et mouvements citoyens condamnent les actes de viol et abus sexuels perpétrés sur des femmes nigériennes par les éléments du 8e bataillon tchadien de la force conjointe du G5 Sahel basée à Téra, au Niger. Nombre de ces organisations exigent que les auteurs soient punis conformément aux lois en vigueur. André Komadjengar, correspondante VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Selon l'enquête menée par la brigade prévôtale de la force conjointe du G5 Sahel, la Téra au Niger, 3 cas de viol sont avérés et la responsabilité est imputée à certains soldats du 8e bataillon du contingent tchadien basé à Téra au Niger. Un cas sur une fille mineure de 11 ans et 2 autres cas sur des femmes mariées en présence de leurs époux sous la menace d'armes à feu informe la cellule de communication de la force conjointe du G5 Sahel. Une situation que déplore le président de la CNDH, la commission nationale des droits de l'homme du Tchad, Dida Oumar.
Il faut reconnaître qu'il y a un travail qui doit se faire au sein de notre armée. Parce que le ministère que nous disposons, ce n'est pas tous qui ont une culture des droits de l'homme. Nous condamnons ce genre d'actes. Parce que c'est des actes qui ternissent l'image de notre armée. Et je crois que ce qui s'est passé est vraiment horrible. Nous sommes entrés en contact avec nos collègues de la Commission nationale des droits de l'homme du Niger qui sont en train de travailler sur le rapport et nous attendons qu'ils nous remettent une copie. Et il faut se mettre au travail pour sensibiliser nos forces en matière de droits de l'homme.
Le ministère tchadien des Affaires étrangères confirme les faits et rassure que les auteurs de ces actes sont déjà arrêtés et subiront les sanctions qui s'imposent. Il tient à préciser que c'est un cas isolé et qui ne doit pas être exploité pour ternir l'image du contingent tchadien et celle de l'armée tchadienne qui a démontré à suffisance sa discipline sur les différents terrains d'opération.
À chaque fois quand nos forces armées vont ailleurs pour un travail, c'est pour salir le nom des tchadiens. Et pour ce cas-là, si les autorités tchadiennes vont jusqu'à dire que c'est un problème isolé, mais dans ce cas, eux, ils les encouragent.
Madame Djumodoum Berthe, femme leader d'opinion, elle se dit très choquée par ce comportement.
Moi, en tant que femme, vraiment, ça me fait très mal parce que la femme est sacrée. Ici même, c'est le même problème et c'est le même comportement-là que eux, ils maintiennent jusqu'à pour aller ailleurs.
Pour Mbernoudji Sosten, coordonnateur du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, cette situation relance le débat sur la moralité des éléments qui composent l'armée nationale tchadienne.
Je crois que les viols sont assimilés à des crimes de guerre. Aujourd'hui, cette question de viol, même si le gouvernement dit que c'est un cas isolé, eh bien, cette armée doit être restructurée dans son ensemble pour qu'on ait une armée digne de ce nom.
Le président de la CNDH, Dida Oumar, estime par ailleurs qu'il faut étendre la sensibilisation à d'autres corps qui s'occupent du maintien de l'ordre public.
Écoutez, c'est pas seulement les forces armées qui sont à l'étranger qui ont commis aujourd'hui un viol. Mais il faut voir ce qui se passe maintenant à N'Djamena. Les policiers qui ne connaissent même pas ce que c'est le droit de l'homme. À chaque petite manifestation, on jette des grenades de chromogène dans les maisons. Et c'est là également ils ont besoin d'une sensibilisation.
Le général de brigade Assem Bermandoa Aguna, porte-parole de l'armée nationale tchadienne, informe que l'état-major des armées se désolidarise totalement de ce comportement indigne. Il promet que des sanctions énergiques seront prises lorsque l'identité et la culpabilité des présumés coupables seront établies. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les conflits prolongés entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria se sont métamorphosés en une chaîne de crises qui menace la coexistence pacifique de plus de 200 groupes ethniques qui composent le pays. Ces conflits font des centaines de morts, des déplacements d'agriculteurs et d'éleveurs. Une solution semble en vue, la Zambie, la Gambie et l'Afrique du Sud proposent au Nigeria des cours de recyclage sur la gestion du bétail pour aider à trouver une solution durable à la crise. Qu'en pensent les Nigérians ? Réponse dans ce reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Les affrontements entre agriculteurs et éleveurs ont lieu entre des bergers peuls musulmans et des agriculteurs chrétiens, exacerbant les hostilités ethno-religieuses. Des affrontements suite à des désaccords sur l'utilisation des terres, le vol de bétail ou l'obstruction des voies de migration traditionnelles des troupeaux. Ces crises ont récemment pris des tournures inquiétantes avec des attaques visant des hauts cadres de l'État comme le gouverneur de l'État de Benue, Samuel Otum, alors qu'il se rendait dans son champ.
Si je ne peux plus aller au champ en tant que gouverneur avec toute la sécurité autour de moi, qui d'autre pourra le faire? Vous imaginez ce que nous traversons ainsi à Benue ici. Merci au président qui a répondu à ma requête et qui a ordonné que toute personne aperçue portant une AK-47 soit éliminée sur le coup.
Les Fulani, une tribu importante dans la partie nord du Nigeria, sont les principaux éleveurs de bétail du pays. Et régulièrement, les bêtes s'égarent et se retrouvent dans les champs des paysans dont ils dévorent les récoltes, provoquant la colère des agriculteurs. L'initiative des pays amis est saluée par Tony Mark, administrateur civil.
C'est une décision importante. Dans ce monde, aucun pays ou individu ne peut vivre isolé. Nous devons coopérer dans le cadre des relations multilatérales et bilatérales pour nous permettre de bénéficier de soutien. Donc, si nous pouvons nous servir des idées des pays qui gèrent leur bétail avec succès et sans problème, pourquoi pas?
Un programme similaire, connu sous le nom de Ruga, avait été conçu par le gouvernement fédéral, mais il s'est heurté à une vive opposition de la part de certaines sections du pays qui le percevaient comme un moyen de s'accaparer des terres en faveur des éleveurs à tout prix. Les réactions des Nigériens sur l'offre des pays amis divergent.
C'est une bonne initiative, mais la première chose avant que cela ne soit fait, il faut que le gouvernement fasse un geste. Je sais et je peux vous dire que le gouvernement n'est pas sincère.
Pour moi, cela n'est pas une solution à la crise. Soyons sincères entre nous-mêmes. C'est juste une question d'ethnocentrisme. C'est ce qui se passe dans ce pays. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'existait pas avant l'arrivée de notre président au pouvoir.
Certains experts conseillent au gouvernement de créer un ministère de l'élevage et de la pêche pour mettre fin aux querelles des agriculteurs et des éleveurs dans le pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Direction le Burkina Faso pour découvrir un festival qui se tient pour faire la promotion des rythmes africains. Le Vemao, village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, qui en était à sa 5e édition, s'est achevé ce week-end. Une édition qui s'est tenue malgré le contexte sanitaire marqué par le coronavirus. Des musiciens d'autres pays n'ont pas pu effectuer le déplacement de Ouagadougou. Mais la fête était tout de même belle. De Ouagadougou, le reportage de Lamine Traoré.
Hey, mon frère, tu crois en fonder quelqu'un de vos
C'est à Saba, un quartier périphérique de la capitale burkinabé, que s'est tenue la 5e édition du Vemao, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou. Plusieurs musiciens se sont succédés sur la scène, à la joie des milliers de spectateurs venus vivre les rythmes africains. Lazare Ouedraogo est un festivalier.
En tout cas, c'est intéressant, vu qu'il y a des artistes un peu compétents partout, et puis on nous promet encore des artistes, des prestations en live. Vu ce qu'on vient de voir tout de suite, en tout cas, on est enjaillé. En tout cas, c'est très bien. On remercie beaucoup les organisateurs. Que Dieu les bénisse. Et puis, bon, pour que les années à venir, ça soit plus intéressant que ça.
Emmanuel Kabour est un autre festivalier.
C'est propre même. Ça répond à mes attentes. En tout cas, l'ouverture, là, bon, moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Parce que depuis que je suis arrivé, je vois que, en tout cas, sur le podium, tous les artistes qui sortent là, en tout cas, c'est les artistes locaux. Donc, ça me va droit au cœur.
Tous les musiciens qui se sont produits ici sont du Burkina. Les organisateurs du festival avaient voulu associer des musiciens d'autres pays africains, mais le coronavirus n'a pas facilité les choses. Saint-Pierre Sabadogo est le chargé de communication du VMAO.
Le VMAO a pour objectif de promouvoir la culture africaine dans toute sa diversité. Voilà pourquoi nous l'avions nommé le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou. Donc, n'eût été ce que je disais tantôt, la maladie à coronavirus, on aurait pu avoir des artistes qui viennent de part et d'autre de l'Afrique de l'Ouest et un peu partout de l'Afrique, en fonction de nos moyens. Mais compte tenu de la situation sanitaire, nous nous sommes limités aux artistes burkinabés, mais avec une exception, parce qu'on aura un artiste camerounais qui viendra pour la clôture à la personne de Mr. Léo.
Durant 4 jours, plusieurs musiciens ont tenu en haleine ce quartier périphérique de Ouagadougou. Les organisateurs se penchent sur la prochaine édition en 2022, tout en espérant pouvoir la tenir dans de meilleures conditions, surtout le coronavirus, loin derrière. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, le Nil, source de tensions entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Les négociations entre les trois pays ont repris à Kinshasa pour tenter de résoudre la crise née de la construction par l'Éthiopie d'un grand barrage que l'Égypte et le Soudan considèrent comme une menace pour leur approvisionnement en eau. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi met en garde contre une instabilité inimaginable dans la région. Comment résoudre cette crise du Nil? La médiation du président Tshisekedi a-t-elle des chances de réussite? Qu'en est-il des autres pays que le Nil traverse? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le président américain Joe Biden a récemment annoncé un plan de dépenses de 2000 milliards de dollars, dont une partie vise à moderniser les routes et les ponts du pays, entre autres infrastructures. On s'attend cependant à ce que le plan se heurte à des obstacles au Congrès. Michel Quinn fait le point. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Le plan d'infrastructure proposé par le président Biden brosse un tableau général de ce qui compte comme infrastructure. Il ne s'agit pas seulement de réparer les routes et les ponts, mais aussi de développer l'Internet et la technologie pour atténuer les changements climatiques. Pete Buttigieg, ministre des Transports.
À mon avis, c'est un moment unique dans ma vie. Je ne pense pas que dans les 50 prochaines années, nous verrons une autre fois où nous aurons cette combinaison d'un besoin certain, d'un intérêt bipartisan, d'une impatience généralisée et d'un président très solidaire qui est engagé au fait, pas seulement dans l'infrastructure elle-même, mais aussi dans les emplois que nous allons créer.
Le plan d'emploi comprend le renforcement de la main-d'œuvre nationale en matière d'énergie propre et la promotion de la prestation de soins en tant que profession. Les leaders républicains disent que la proposition est trop vaste. Le paquet envisage un réseau de 500 000 bornes de recharge pour voitures électriques d'ici 2030. Roy Blunt, sénateur républicain.
Quand les gens pensent aux infrastructures, ils pensent aux routes, aux ponts, aux ports et aux aéroports. C'est une toute petite partie de ce qu'ils appellent un paquet d'infrastructures.
Payer les factures est également un problème. Le paquet propose des augmentations d'impôts sur les sociétés auxquelles les républicains se disent opposés. Le projet de loi est maintenant examiné par le Congrès avec des leaders démocrates qui visent à le faire parvenir au bureau du président pour sa signature dans les mois à venir. Le paquet sera un test de l'unité du Parti démocrate. Si Biden ne peut obtenir le soutien d'aucun républicain, il aura besoin que tous les démocrates votent en sa faveur dans un Sénat également divisé.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Michel Joseph, Josène Morissin et Lionel Gaïmard. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.